Bonjour à tous et à chacun. Je voudrais tout particulièrement ce matin saluer Lionel et Laura qui sont venus à Nîmes pour y rester, vous avez compris. Nous sommes très reconnaissants de les voir parmi nous et nous prions le Seigneur de nous bénir ensemble avec eux. Pour la méditation de ce matin, je voudrais d'abord vous inviter à lire avec moi quelques versets d'abord dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 41. Nous lirons quelques versets à partir du 8e. Quant à toi, Israël, mon serviteur, Jacob que j'ai choisi, et descendance d'Abraham, qui était mon ami, toi que je suis allé chercher aux confins de la terre, et que j'ai appelé de ses extrémités, toi à qui j'avais dit tu es mon serviteur, je t'ai choisi et non pas rejeté. Ne sois pas effrayé, car je suis avec toi. Ne sois pas angoissé, car moi je suis ton Dieu. Je t'affermis, je viens à ton secours. Pour sûr, je te soutiens de mon bras droit qui fait justice. Et puis encore un verset, le 13e. Car moi, l'Éternel, je suis ton Dieu, je saisis ta main droite, je te dis, sois sans crainte, je suis là pour t'aider. Notre deuxième lecture se trouve au psaume 116. Nous lisons les 9 premiers versets. Oui, j'aime l'Éternel, car il m'entend lorsque je le supplie. Il m'a prêté l'oreille, je l'invoquerai donc tous les jours de ma vie. Les pièges de la mort m'avaient enveloppé, les terreurs du séjour des morts m'avaient déjà saisi, et j'étais accablé de tristesse et d'angoisse. Alors j'ai appelé l'Éternel au secours. Je t'en prie, Éternel, viens me sauver la vie. L'Éternel nous fait grâce, et notre Dieu est juste, il est plein de bonté. L'Éternel garde ceux qui sont sans détour. C'est lui qui m'a sauvé quand j'étais misérable. Retrouve donc ta paix, mon âme, car l'Éternel t'a fait du bien. Oui, Éternel, tu m'as délivré de la mort, tu as séché mes pleurs, tu m'as préservé de la chute. Ainsi, je marcherai encore sous le regard de l'Éternel au pays des vivants. Et enfin, nous lirons dans le Nouveau Testament, dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 11, des versets 28 et 29. Venez à moi, vous tous qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et vous trouverez du repos pour vous-même. Et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur. Oui, mon joug est facile à porter et la charge que je vous impose est légère. Je me propose ce matin de parler sur les vacances et le repos. Un sujet pour le temps qui est le nôtre. Les vacances. Le mot est un peu magique. Il est chargé de temps d'attente et de bonheur. Vive les vacances. Le temps et le lieu. Vacances signifie d'abord absence. Manque. Vide. Vide d'activité, de pouvoir, de fonction, de bien des choses. On parle effectivement de faire le vide quand on veut entrer dans un temps de vacances et de repos. C'est la fin du temps de travail avec ses contraintes, ses fatigues, ses agitations, ses tensions et ses soucis. C'est le début du temps de la liberté, du loisir, du repos, des vacances. On part pour un lieu de vacances. En réalité, tous ne connaissent pas les vacances, ni ici, ni ailleurs. Pas si vous le savez, mais les vacances avec la rétribution et la rémunération sont une conquête sociale récente dans les pays développés. Les congés payés en France datent de 1936. Un élément essentiel pour les vacances, c'est bien sûr le repos. C'est le plus commun, le plus naturel, ce que chacun attend ou s'attend à trouver dans son temps de vacances. C'est ce qui s'inscrit dans le rythme travail, repos, activité, sommeil comme facteur essentiel du cycle de la vie. Repos non seulement comme arrêt de l'activité, mais comme signe d'un accomplissement, l'accomplissement d'une œuvre, l'achèvement d'un ouvrage, même imparfait, même partiel. Un temps pour faire et un temps pour cesser de faire, parce que, justement, on a fait. Quelque chose qui a un sens, qui a une valeur, on parle de recharger les batteries pour le temps du repos, pour le temps des vacances. Mais le repos a une autre dimension, une dimension morale et spirituelle. C'est la paix intérieure qui remplace l'inquiétude, le souci et l'angoisse. Le vrai repos est le résultat convergent des conditions extérieures et des conditions intérieures du repos. Nous savons que dès le début, le temps du repos a été donné et ordonné même par Dieu. C'est pour le peuple d'Israël le temps du sabbat, l'objet du quatrième commandement. Il marque le rythme naturel de la vie par rapport au travail. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos consacré à l'Éternel. C'est ce que nous trouvons bien sûr dans la loi. C'est la bonté de Dieu qui prend soin de la vie de l'homme pour son bien, pour la restauration de ses forces, mais aussi pour la restauration de sa relation avec Dieu. Le signe que donne le jour du repos dans le peuple d'Israël, c'est d'abord un signe de liberté par rapport au travail forcé qu'Israël accomplissait comme esclave en Égypte. Repos parce que libéré du poids et de la peur de la tyrannie et du désespoir. Jour du repos. Participation au repos du Créateur qui cessa lui-même de créer son œuvre achevée et reprit son souffle. C'est ainsi que s'exprime l'Écriture. L'homme est non seulement libéré de l'esclavage, mais il est fils de Dieu. Son repos, ce n'est pas seulement d'arrêter son travail, mais c'est d'être lié à Dieu et de participer à sa vie. Le jour du repos est un temps de fête pour célébrer Dieu et lui exprimer reconnaissance et amour. Ce sabbat, ce jour hebdomadaire du repos, rythme la vie de l'Israélite, sa vie dans son déroulement temporel. Le temps du repos vient conclure le temps de travail. Autre élément dans lequel Dieu manifeste sa bonté et le soin qu'il prend de l'homme, c'est l'année sabbatique. Cette année qui intervient tous les 7 ans, du repos de la terre, c'est une année sur laquelle l'Éternel Dieu a veillé, puisque la production spontanée de la terre suffira pour la nourriture du peuple. L'année qui précède celle du jubilé produira des récoltes triples. C'est ce que nous apprenons dans le livre du Lévitique. Ainsi, aucun souci pour la subsistance, le repos peut être complet. Dieu lui-même conduit son peuple vers le lieu du repos. Israël est un peuple en marche vers la terre promise, présenté dans la promesse de Dieu non seulement comme le pays de l'abondance, celui où coule le lait et le miel, mais le pays du repos. Dans cette perspective, le repos ne se définit plus par rapport au travail, mais par rapport aux inquiétudes de l'errance et aux angoisses de la guerre. Tout au long de la marche du peuple dans le désert, Dieu a pourvu à sa paix en le protégeant de ses ennemis, en le délivrant de leurs attaques et en faisant en sorte qu'il puisse même aller au-delà des choses qui peuvent se présenter. Et vous connaissez le passage de la mer Rouge et vous connaissez aussi les œuvres de l'Éternel en faveur de son peuple. Il protège de l'ignorance du chemin, des incertitudes de la marche. Pour ce qui est du chemin, vous savez que le peuple était conduit par les colonnes de nuées et de feu, et il pouvait marcher ainsi sous la conduite même de Dieu. Et il apaisait aussi ses inquiétudes pour la subsistance par la manne et l'eau du rocher. Dieu a pourvu pour que le peuple ait tout ce qui lui était nécessaire. Ces actes de Dieu au quotidien en faveur de son peuple témoignent non seulement de sa bonté, mais de son dessein, de son projet pour son peuple. Il accompagne Israël tout au long de sa marche pour le conduire jusqu'à la terre promise qui sera pour lui le lieu du repos. C'est la fin de l'errance, voici un lieu pour s'établir. Il faut encore combattre pour conquérir le pays, mais Dieu a promis son secours et la victoire sur les ennemis. Après, c'est la paix et le repos, la sécurité, la stabilité et la prospérité. La marche avec Dieu. C'est ainsi que le peuple est conduit et défini comme étant le peuple qui marche avec Dieu. Et au bout de cette marche, il y a le repos dans lequel on entre et dans lequel on vit par la foi. Mais l'être humain est ainsi fait. L'homme fait du repos un laisser-aller. Il y a les pièges et les risques du repos. Nous lisons dans le livre de Néhémie, dès que les Israélites eurent du repos, ils recommencèrent à faire le mal. Allons. Comment concevoir une telle dérive, un tel dérapage? Dès qu'ils eurent du repos, ils recommencèrent à faire le mal. Pourquoi? Je voudrais énumérer ici quelques raisons, parce qu'elles peuvent aussi nous concerner dans notre marche chrétienne, dans notre marche avec le Seigneur. Le peuple d'Israël a connu une paix et une sécurité, mais parfois sans vigilance. Veille sur toi-même, dit le Seigneur. Le peuple d'Israël a connu une prospérité aussi, parfois sans reconnaissance. Ne dis pas « c'est moi, c'est ma main qui m'a délivré de mes ennemis ». C'est l'Éternel qui a accompli cette œuvre. Une sécurité sans vigilance, une prospérité sans reconnaissance et un repos sans conscience. Souviens-toi d'où tu es venu. Souviens-toi qui tu es et qui est ton Dieu. Et si tu oublies ces réalités, notamment la plus importante, ton Dieu, il y a de gros risques. Et c'est là qu'on se retrouve dans la dérive. Une paix et une sécurité sans vigilance, une prospérité sans reconnaissance et un repos sans conscience. Le repos sans conscience, c'est le repos décrit dans le riche de la parabole. Tu as beaucoup de biens et pour longtemps. Repose-toi, mange, bois et jouis de la vie. Mais Dieu, qu'est-il pour toi? Nous avons lu dans Michée, « Levez-vous et mettez-vous en marche. Ce pays n'est plus un lieu de repos parce que c'est un pays qui a été souillé. » C'est que la fidélité à l'Alliance conditionne la nature et la durée du repos dans la terre promise. Du lieu du repos de Dieu, de la terre promise, le peuple repartira vers l'exil, car le pays a été souillé. Le temps et le lieu du repos ont été gâchés par l'incrédulité du peuple. Comment faire face? Comment aller de l'avant et être au bénéfice des promesses que l'Éternel accomplit. Le salut se trouve dans la conversion à Dieu et dans le calme confiant en lui, non dans l'agitation, la fuite ou les appuis humains. Désormais, l'attente et l'espérance du repos sont tout entières dans le salut de Dieu, dans sa présence et dans son accompagnement efficace tout au long de la vie. Retrouve, mon âme, ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. Nous avons lu cela dans le psaume 116. Oui, l'Éternel, tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux des larmes, mes pieds de la chute. Je marcherai devant l'Éternel sur la terre des vivants. Telle est la réalité du croyant, telle est la force de la foi, telle est la paix que Dieu donne à ceux qui se confient en lui. Nous pourrions lire bien d'autres passages. Par exemple, au psaume 23, « Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme. » Nous vivons une époque qui, par bien des côtés, justifie qu'on se fasse du souci, qu'on s'inquiète, que de difficultés pour les gens, de se comprendre, de s'entendre. Certains nous proposent même des vérités alternatives dans notre siècle. Y a-t-il encore des valeurs et des principes? Y a-t-il encore du respect des anciens, des autorités, par exemple? Jésus dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et vous trouverez le repos de vos âmes. » Je voudrais conclure avec ces paroles de l'Évangile et ces paroles de Jésus qui sont notre force, notre recours, et notre paix. Prenez mon joug sur vous et vous trouverez le repos pour vos âmes. Qui est-ce qui nous dit cela? Qui lance cet appel? C'est celui qui n'a pas un lieu pour reposer sa tête. C'est la paix que Jésus donne, la paix avec Dieu, la paix de Dieu. Jean 14, que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu et croyez en moi. Je vous laisse la paix, dit Jésus. Je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Et nous avons la paix de Dieu. Dans la lettre aux Philippiens, nous lisons « Ne vous mettez en souci pour rien, mais en toute chose, exposez vos besoins à Dieu, adressez-lui vos prières et vos requêtes, en lui disant aussi toute votre reconnaissance. Alors, la paix de Dieu, qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera votre cœur et votre pensée sous la protection de Jésus-Christ. » Enfin, frères, tenez compte de tout ce qui est vrai, noble, juste, pur, digne d'amour ou d'approbation, de tout ce qui mérite respect et louange. Alors le Dieu qui donne la paix sera avec vous. Amen.